Polysécur, épisode technique, je suis accompagné de Maxime. Comment vas-tu?
Salut, très bien, toi?
Très bien aussi. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui est de ta proposition, c'est comment se cacher sur un endpoint. J'ai trouvé ça très intéressant parce que, essentiellement, le travail du SOC avec un DR, c'est de réussir à retrouver, c'est un jeu de cache-cache, essentiellement. Les malveillants essaient de se cacher, on essaie de les trouver. Fait qu'on va, comme là, on va discuter vraiment du volet où ils se cachent et comment ils se cachent. On va probablement partager un peu, plus d'expérience que moi là-dedans. J'ai quand même partagé certains éléments de mon expérience également pour voir et pour aider les gens dans l'absolu à trouver les signaux qui vont les aider à une tentative de cachette et de jouer à cache-cache avec les méchants. Je laisse commencer.
Super, super. Cool. Donc, je pense dans ma tête, le point d'entrée dans tout ça, c'est un peu de commencer par dire, on va faire un call-out, tu sais, bon, c'est quoi les choses qu'on va vouloir se cacher, tu sais, c'est quoi les buts qui sont importants. Puis après ça, bon, pour chaque but différent, ben, il va y avoir un peu des techniques un peu différentes. Mais il y a, je pense, je dirais comme... Ça, je suis sûr qu'y penser 10 minutes de plus, j'en enverrai d'autres, mais disons trois gros buts. Le premier, c'est la persistance. Donc, la persistance, ça veut dire essentiellement, bon, si je hack, j'arrive sur un endpoint, je veux pouvoir rester là. Donc, je veux pas que si la machine reboot, par exemple, que ben, moi, je pars, quelque chose comme ça. Fait qu'il y a la persistance. Ensuite, il y a, je dirais, le runtime, qui est, dans le fond, c'est très général. Dans le fond, c'est un peu comme un peu tout dans ça, mais pendant que ta présence roule sur cet endpoint-là, tu veux pas que quelqu'un te voit de façon facile ou du moins découvre le fait que tu es malicieux. Je pense qu'il y a une petite importance entre ces deux choses-là, puis je suis sûr qu'on va en jaser un peu. Puis la troisième, c'est ben habituellement quand on parle d'endpoint, ben veut pas, ben à moins qu'on soit assis au clavier, ben, ça veut dire qu'il faut parler sur un réseau. Tu sais, il faut que la chose qui roule sur l'endpoint parle sur le réseau, puis ramène des données ou prenne des actions de l'attaqueur, donc sur Internet. C'est comme le remote control, cette partie-là. Et donc, on va vouloir se cacher aussi de ce point de vue-là. C'est le réseau. Alors, peut-être qu'on touchera pas, c'est au point de vue analyse réseau, comment se cacher, parce que c'est assez différent comme type de technique. Mais il y a un aspect endpoint à ça aussi. C'est aussi simple que de dire netstat, puis c'est quoi, c'est netstat, c'est sur Windows. Puis oui, ifconfig sur c'est ça. Alors se cacher dans le fond dessus. Ça fait que je pense en tout cas dans ma tête la partie la plus une des parties très intéressantes c'est la première qui était la persistance. Donc je pense que la façon pour couvrir le plus de terrain le plus rapidement possible c'est de parler du concept d'auto runs. Un auto-runs, je sais pas c'est quoi, si c'est le terme qui est venu en premier ou bien l'outil qui est venu, je pense que c'est un peu égal. Mais auto-runs, c'est un outil qui avait été fait par Rusinovich, si je me rappelle bien, de SysInternals, qui était une compagnie, quelqu'un qui avait fait beaucoup de reverse engineering de Windows. Il avait fait plein d'une grosse suite d'outils pour vraiment creuser dans Windows, puis tu sais voir des API, puis voir des choses à bon niveau. Et puis il y a maintenant ça doit faire un bon bout, mais éventuellement cette compagnie-là s'est fait acheter par Microsoft. Mais c'est tellement une bonne suite d'outils que je te dirais que moi quand j'ai commencé ma carrière c'était le standard, puis je pense que c'est encore le standard.
C'est le poor man tool, c'est-à-dire tout le Sysmon de ce monde. Sysmon est probablement l'outil principal quand on n'est pas capable de se payer un EDR. C'est l'outil à utiliser parce qu'on voit tellement de choses avec ça. Le problème, c'est qu'il faut savoir les utiliser. L'avantage de DA, c'est qu'on, comme on a dans un épisode précédent discuté, il va transformer tous ces événements-là en signaux. Ce que Sysmon ne fait pas, c'est ton problème de transférer toute la panoplie de choses en signaux. Et là, bon, là, ça vaut ce que ça vaut. Là.
Exactement. Je dirais que, tu sais, l'espèce de l'autre côté de la médaille sur ça, c'est que, tu sais, SysInternal, c'est une grosse suite d'outils. C'est gratuit, comme tu dis. Puis un des avantages, je dirais, à quelqu'un qui est dans la première moitié de sa carrière en cybersécurité, c'est que un EDR pour la plupart des vendeurs, disons, tu sais, c'est vraiment comme un next-gen AV. Comme tu dis, ils vont comme distiller, c'est un mot français. Je pense que,
en tout cas, bon, on va distiller pour de l'alcool, par exemple, notamment.
Oui, non, c'est exactement ça, exactement. Ils vont distiller, tu sais, toute cette information-là de bon niveau pour te donner, tu sais, ce qui monte à la surface. Dans le fond, c'est vraiment juste des signaux. Mais pour apprendre, c'est dur à battre de, tu sais, de dire, bon, mais je ne vais pas prendre la solution facile, je vais aller avec SysInternals, puis tu sais, je vais regarder un des, je ne sais pas combien il y a d'outils, mais au moins une vingtaine. Puis regarder, puis comprendre qu'est-ce que ça te dit à propos de tous les sous-systèmes dans Windows, puis tout ça. En tout cas, je pense que c'est...
Ouais, je suis d'accord avec ça. Puis de toute façon, on diverge un peu du sujet principal, mais oui, je suis très d'accord avec ça, puisque, c'est comme ça que j'ai appris. Je crois qu'on doit apprendre de cette façon-là, parce que les EDA, puis plus, tout dépendant quand il y en a, les signaux qu'on obtient sont tellement filtrés, sont distillés, comme tu dis, qu'on ne comprend pas d'où ils arrivent et pourquoi ils arrivent. Et cette connaissance-là, puis pour avoir vu plusieurs analystes SOC, le fait que certains n'ont pas cette connaissance-là du pourquoi le sien est arrivé, les limite énormément dans leur capacité à agir et à faire les liens. Quand tu es capable de dire, quand tu as vu du Sysmon plein la face ou avec genre une stack Elk, ou c'est Hunting Elk qui est la stack qui est faite pour pour se pratiquer gratuitement. D'ailleurs, c'est ça qui est le fun, si vous voulez pratiquer dans une chose gratuite, ben ça, c'est, on en a un outil très utile, puis justement de vous amener à cette connaissance-là, l'univers Windows naturellement, mais quand même de vous familiariser avec cet univers-là, de comment ça fonctionne pour quelqu'un avec les signaux disons, d'EDR plus sophistiqués, ben là, vous êtes capable de déduire pourquoi l'EDR a fait le travail et donc d'aller plus vite. C'est ça.
Oui, exactement. Des fois, ça forme le caractère, puis ça forme la carrière. Mais donc, pour revenir, essayer de rester un peu plus sur la route aujourd'hui. Donc, il y a AutoRuns, et l'idée de AutoRuns, c'est un outil. Si vous l'ouvrez, tout ce que ça fait, c'est très simple. Ça, c'est une immense liste d'endroits ou de configurations dans le système qui peuvent permettre à une pièce de code de prendre exécution quand un ordinateur, quand Windows part, quand il boot. Et je dis ça de façon très générale, mais c'est vraiment le but, c'est d'être extrêmement général parce que, je pense que le plus connu de tous les autoruns, ça serait, tu sais, le run key. Il y a une clé dans le registre, puis c'est un directory à quelque part, tu peux mettre un fichier là-dedans, puis quand tu log in, ben, ça part. Donc, c'est comme le granddaddy de toutes les autoruns, qui est très simple, mais à partir de là, il y a au moins des centaines de façons différentes de gagner exécution. Et il y en a beaucoup qui sont vraiment pas évidentes, qui sont fascinantes. Moi, c'est ça que je trouve le plus cool parce que, tu sais, tu peux commencer à te dire, bon, ben, un qui me vient en tête, c'est, Windows, la façon dont ils vont montrer les icônes pour des fichiers, tu peux avoir une icône littérale, donc tu sais, c'est vraiment comme un JPEG, genre, mais tu peux aussi enregistrer un DLL qui va contenir une ressource puis qui va être appelée quand on a besoin de faire le render, tu sais, de montrer l'icône. Oui, ça fait aucun sens.
Mais pourquoi ils ont pensé à faire ce genre de choses-là? C'est quand même débile, mais bon, bref.
Je pense que c'est avant que la sécurité soit aussi importante. Je suis sûr que ça doit dater de Windows 3.1, quoi comme ça, tu sais. Mais à la fin de la journée, ça veut dire que si tu es un attaqueur, ben, tu peux mettre un DLL à quelque part sur le système avec ton code malicieux. Puis tu peux mettre un icône à quelque part où tu peux, en fait, dire, bon, mais mon DLL, c'est lui qui va faire le render de tous les points TXT. Et puis, bon, ben, tu dis, bon, statistiquement, il y a peut-être, ou il y a des bonnes chances qu'il y ait un point TXT à quelque part puis que je me fasse appeler. Et c'est les autoruns, c'est pas une question de, tu sais, où est-ce que je vais cacher tout mon, je sais pas quel mot utiliser, tout mon agent malicieux, disons, tu sais, j'essaie de trouver un mot assez générique. Donc, c'est pas nécessairement là que tu vas tout cacher, mais c'est ce que souvent on va appeler un bootstrap. Donc, c'est l'idée, c'est la toute première petite ficelle, c'est du code exécutable, tu te fais appeler. Et puis, à partir de là, bon, ben, c'est là que l'exécution vraiment complète de ton agent malicieux commence à partir.
Oui, puis je trouve ça important de souligner le bootstrap parce que en tant que défenseur de SOC analyst, tu dois savoir que le bootstrap, faut que tu sois sensible au bootstrap parce qu'ils sont souvent très anodins. Et si on fait Living of the Land, par exemple, et l'Albin, c'est un très bon exemple de choses où le bootstrap il est inoffensif de façon perçue par la défense. Cependant, dans le chemin, il y a quelque chose qui, puis là, il faut le détecter. C'est exactement le même type de comportement qu'il faut détecter, même si ce qui est mis initialement est le l'odeur est très, très inoffensif.
Exactement. Les attaqueurs savent que si c'est quelqu'un qui défend, le défenseur va lui aussi chercher les bouts de ficelle, tu sais, d'une certaine façon. Alors, ils savent que le bootstrap, c'est la chose qui a une bonne chance de faire qu'ils vont se faire détecter. Alors, c'est ça, ils vont mettre beaucoup d'efforts pour, exactement comme tu dis, que ça ressemble à rien de particulièrement intéressant. Ou c'est très difficile à comprendre qu'est-ce que ça fait. Parce qu'il y a l'aspect humain dans tout ça aussi qui est, c'est comme un peu l'équivalent de, tu sais, une espèce d'expression, du moins en anglais, qui est, j'ai pas besoin de courir plus rapidement que l'ours, j'ai juste besoin de courir plus rapidement que le gars qui est à côté de moi. Alors, c'est un petit peu comme ça où mon bootstrap a pas besoin d'être parfait, il a juste besoin d'être assez plate à reverse engineering que la personne t'es dans le soc qui se met à regarder ça après une heure, il est tanné puis dit oh, dans le fond, je suis pas sûr que c'est vraiment rien, je vais passer à la prochaine chose.
Ouais, alors, justement, qui a l'air inoffensif, qui a l'air non dangereux pour passer les premières gardes, puis ensuite de pouvoir être plus dangereux. Parce qu'ensuite, c'est ça le problème, c'est qu'une fois qu'on a passé ça, la capacité ou la force d'analyse diminue très rapidement. Puis les gens sont de moins en moins attentifs à ce qui se passe par la suite. Puis c'est là où les attaquants savent que, comme on est moins attentif, ben c'est là qu'ils vont avoir plus de fun.
Exactement. Alors, les autoruns, c'est vraiment, vraiment très critique. Puis dans le fond, de la façon, c'est très générique aussi. Alors, vraiment, ça s'applique à toutes les techniques. T'sais, il va avoir des run keys, des choses comme les icônes, mais il va avoir aussi plein de techniques qui sont encore moins évidentes à tout ça. Puis il y en a, je pense, j'imagine que c'est encore vrai, mais comme à toutes les années, il y a toujours des nouveaux autoruns qui sortent parce que quelqu'un se rend compte que tu sais, des niaiseries des fois, genre hey, l'équipe qui fait Minesweeper dans Windows, c'est pas une vraie affaire que je dis là, mais tu sais, c'est un exemple. C'est l'équipe qui fait Minesweeper dans Windows, ben ils ont ajouté un feature pour des save games. Puis ben les save games utilisent tu sais, un script à quelque part sur le disque, puis il va aller l'exécuter au début. Et voilà, tu sais, donc l'attaqueur peut juste dire ben Minesweeper c'est installé sur toutes les boîtes Windows. Alors, je vais juste trouver une façon d'aligner toutes ces choses-là pour les faire fonctionner. Si on zoome un petit peu à l'intérieur des autoruns, parce que les autoruns, c'est comme, c'est la technique, mais c'est pas le payload. Dans le sens que c'est la technique qui veut juste dire, bon, ben, je vais pointer à quelque chose, cette chose-là va se faire partir. Maintenant, ce que cette chose-là est, va varier. Tu as parlé de Live Off the Land, c'est quasiment une philosophie. Tu sais, c'est flou un peu. C'est l'idée de dire, à la place que je mette, disons, un exécutable malicieux comme payload, ben, je vais prendre quelque chose que je sais qui existe déjà sur le système. Je vais essayer de réutiliser le plus de choses possibles qui existent déjà. Dans la théorie que si c'est quelque chose qui existe sur tous les systèmes, d'une façon statistique, un défendeur qui va regarder ça va juste voir quelque chose qui est très commun et ne verra pas l'aspect malicieux de ça. C'est un peu la même définition.
Absolument. Oui, oui, c'est à peu près ça. Puis c'est drôle parce que cet automne, alors au moment de l'enregistrement, on est fin 2023. Fait automne 2023, il a commencé à avoir les groupes criminalisés ont commencé à s'intéresser réellement au Lolbin, ce qui n'était pas le cas avant. C'était plus des cas marginaux ou des gens plus sophistiqués. Fait que c'est intéressant de voir que maintenant, c'est rendu commun. Fait que là, j'imagine que les outils vont s'adapter, ils vont être capables de raffiner les choses, mais pour avoir géré ce genre de choses-là, puis le problème des ça, c'est essentiellement en Windows, c'est le PowerShell, là, le problème. Le plus gros du problème, c'est que les admins systèmes qui ont utilisé ça pour le script interne, c'est pas du monde qui savent coder. Donc, ils codent tout croche. Et ensuite, tu essaies d'attraper des choses qui sont codées tout croche. Puis là, tu essaies par rapport à du code potentiellement malveillant. Puis là, ça devient un foutoir. Et là, les malveillants sont morts de rire. Parce que c'est tellement un foutoir qu'on n'est pas capable de rien trouver, on n'est capable de rien voir.
Absolument. Puis en plus, ça travaille contre beaucoup d'efforts que Microsoft ont fait dans le passé. Entre autres, le file signing. Donc, tu sais, Microsoft, comme toutes les autres grandes plateformes, ont commencé à dire, bon, depuis quand même assez longtemps maintenant, il faut signer de façon cryptographique tous les fichiers exécutables pour qu'on puisse dire, bon, vraiment, ça vient de telle organisation, puis c'est vraiment eux qui l'ont émis, tu sais, ce fichier-là. Puis là, tu arrives avec des scripts en entreprise, avec un sysadmin qui a décidé, lui, il y a 250 scripts qui copient sur toutes les boîtes dans son organisation. Aucun des scripts ne sont signés parce que c'est juste des scripts. Alors, comment déterminer, bon, ça, c'est un vrai script ou ça, c'est le mauvais script ou... Ce script-là, c'est le vrai, sauf que à la ligne 3050, ben, l'attaqueur a ajouté une petite affaire qui le fait partir. C'est l'enfer.
Oui, c'est pas une chose agréable. C'est à chaque fois qu'on pense qu'on a terminé quelque chose, il y a quelque chose d'autre qui s'en vient après, là, parce qu'on a toujours, c'est toujours la même course, tu sais, le même nombre d'années à peu près d'expérience que la mienne. Et ce qu'on voyait il y a 25, 30 ans, on le revoit maintenant, plus sur les mêmes formes. Avant, c'était ça, principalement, disons, il y a 30 ans, c'était du C avec des buffer overflow, des pointeurs, et ainsi de suite. Là, on arrive maintenant, là, on regarde les affaires, puis philosophiquement parlant, c'est exactement la même chose qu'on voyait il y a 30 ans, mais avec d'autres outils. Fait que là, du PowerShell ou un autre bidule, exactement les mêmes stratégies d'attaque qui sont utilisées. Fait que moi, je suis un peu déprimé en quelque sorte parce que pour moi, techniquement, je suis à la troisième vague, c'est-à-dire on a réglé tout le volet avec le C parce qu'on s'en est essentiellement débarrassé. On a vu tout le volet Web 2.0. Fait que là, on a fini par en régler une partie. Puis là, on tombe en info nuagique puis on refait encore les mêmes apprentissages, les mêmes choses. Fait que bref, ça me déprime un peu, mais oui, en PowerShell, c'est juste injecté, c'est copié sur le poste. Puis ça me rappelle des attaques dont on remplaçait le point SCR, on remplaçait le screen server. Mm-hmm. Puis c'était parce que les gens avaient découvert que le screen, puis là, si on parle de choses autorun, le screen server, c'est un exécutable. Fait que là, c'était exécuté de partie, et c'était exécuté système en plus. Fait que puis c'était pas protégé d'aucune façon. Fait que là, les attaquants étaient morts de rire. Il fait juste remplacer le point SCR. Ou tu demandes à l'utilisateur de l'installer pour toi, puis pff,
le bon vieux temps. Ah oui, c'est vraiment, oui, c'est des nouvelles générations de monde qui voient des nouvelles features, des nouvelles choses qu'ils peuvent faire, mais qui pensent pas à la sécurité du premier jour, ce qui fait que je comprends, tu sais. Mais oui, c'est l'histoire qui se répète. Il y a quelques années, je pense maintenant, Microsoft ont parti à un... certains OS de Microsoft ont un Linux subsystem. Donc, tu pouvais lancer des ELF, des exécutables Linux sur Windows. Et je me rappelle avoir vu ça. C'est comme... Parce qu'on n'avait pas encore assez de surface d'attaque. Il fallait en ajouter plus. En tout cas, c'est l'enfer.
Ça, j'ai jamais compris pourquoi. Ouais, là, il y avait un subsystème Linux ou Unix. Ça, c'est un POX 6. Puis, qui permettait ce genre de choses-là. Mais tu dis, mais pourquoi? Déjà que Windows, c'était à cette époque-là une passoire. Il fallait en rajouter plus par-dessus. Là. Puis, bien heureusement, Microsoft a corrigé beaucoup de choses depuis.
Mm-hmm.
Mais. C'était lasé. Puis tout ce que tu parlais d'autorun tantôt, mais c'est toutes des affaires. Ça, c'est un peu la damnation de Microsoft. Le legacy, c'est le support de toujours maintenir, contrairement, disons, on va voir Mac s'en fout, Apple s'en fout de la continuité. D'autres manières, ils vont couper, puis c'est arrange-toi avec tes problèmes. Microsoft n'a pas cette philosophie-là. Ils maintiennent beaucoup de systèmes puis de stratégies legacy qui sont héritées de d'époque immémoriale, essentiellement au niveau informatique, là, avec tous les problèmes que tu mentionnes, notamment avec les affaires des icônes, là, tu sais, ça vient d'une ancienne époque, là.
Ouais, exactement. Puis il faut être fair, tu sais, il faut être juste et dire, bon, il n'y a pas juste Windows, tu as parlé de macOS, et il y a Linux aussi, et je dirais que t'sais, bon, c'est dur un peu à dire. Je pense qu'il y a un peu moins de surface sur Linux. Cependant, donc la liste d'auto-run, je dirais, je pense qu'il y en a moins, mais la différence, c'est qu'il n'y a pas de file signing en général. Tout est du script. Alors, toutes les difficultés autour de, qu'on disait, bon, mais tu sais, c'est à telle ligne de script, ben, ça se retrouve sur Linux aussi. Je pense que
on va rire un peu du Perl.
Ouais.
Si tu caches quelque chose dans Perl, t'es juste foutu, t'es juste plus capable de comprendre ce qui s'est passé. Puis essaie de te rappeler pourquoi t'as fait ton Perl comme ça. Ben, c'est la mort, là, automatique.
la seule chose qui nous sauve, je pense, c'est que Linux, c'est des serveurs habituellement. Il y a moins de monde qui roule ça comme station de tous les jours. Ou le monde qui le font plus attention. À la façon dont ils managent. Un petit peu.
J'irais plus du côté du fait que c'est comme macOS il y a à peu près 10 ou 15 ans où ils n'étaient pas attaqués puis donc ils se pensaient ben bon parce qu'il n'y avait pas de problème, parce que là, les attaquants ne s'intéressaient pas à cette plateforme-là parce qu'elle n'était pas suffisamment importante. Ça a changé depuis parce que maintenant on en voit beaucoup plus de cas de malveillance sur Mac. Il y avait d'autres stratégies parce que c'est plus difficile de prendre pied sur un Mac. Mm-hmm. Mais ça se fait bien d'ailleurs. Puis il ne faut pas se penser qu'on est invulnérable parce qu'on a un Mac, parce que c'est aussi problématique. Et il y a plein de stratégies qui sortent, somme toute un peu plus sophistiquées, mais quand même, il y a beaucoup de place à l'autorun. Il y a beaucoup de place à ces éléments-là. C'est un peu comme Linux, c'est un peu difficile de planter quelque chose dans l'autorun, contrairement dans un Windows. Il y en a quand même, mais c'est plus difficile de trouver l'espace. De toute façon, sur cette plateforme-là, se cacher, c'est pas la même stratégie que Windows. Windows, on va aller beaucoup dans l'autorun, comme tu mentionnes, ou toute la nouvelle persistance. En Mac et en Linux, on va trouver des stratégies pour se cacher qui sont différentes, notamment, puis là, je tombe dans le runtime, d'effacer ton exécutable. Parce que ça, c'est drôle, parce qu'en Windows, ça ne se peut pas. Tu ne peux pas effacer un fichier qui est exécuté. Mais en Mac et en Linux, tu peux effacer un fichier qui est exécuté parce qu'il y a une copie mémoire. Mais il n'existe plus, il n'y a plus de fichiers. Fait que tu sais, il y a ces stratégies-là qui existent dans ces environnements-là qui sont spécifiques à parce que le fonctionnement naturel, puis le macOS, c'est un BSD en dessous, là, sont fondamentalement différents sur Windows, où Windows met des locks à peu près sur tout et n'importe quoi. Et à certains égards, c'est un peu fatigant d'ailleurs qu'ils mettent des locks partout. Puis je comprends pas pourquoi. Puis pour moi, le plus gros exemple qui m'agace, c'est qu'ils lockent la caméra puis ils lockent le son. Fait que contrairement sur un Mac, tu peux avoir trois programmes qui vont utiliser la caméra en même temps, il n'y a pas de problème. Sur Windows, il y a locké, il y a juste un logiciel qui a de poler la caméra. Pourquoi? J'ai aucune idée. Mais je trouve ça super étrange que dans un environnement, c'est comme ça, puis dans l'autre, ça l'a complètement. Puis Linux aussi, c'est comme ça. Tu peux. Un problème parce qu'ils doivent pointer sur un un faux endpoint que tu viens juste te plugger dessus puis t'écoutes dessus là. Mais en tout cas, bref, là on descend dans du setup de système, mais en retournant à la persistance.
T'as mentionné sur Linux effacer le exe, un pro tip de ça parce que c'est commun. Si quelqu'un nous écoute puis qu'un jour il fait face à ça, le virtual file system de /proc qui garde une liste de tous les processus qui exécutent. C'est si vous avez une journée à mener à tuer, investiguer /proc parce que c'est super utile. Il y a plein d'or là-dedans. Et une de ces choses-là, c'est qu'il va avoir un fichier virtuel qui va pointer au fichier qui est utilisé pour partir l'exécutable originellement, même s'il est effacé. Alors, l'exécutable sera plus dans le directory, mais il va être à travers /proc, tu peux aller le trouver. Et tu peux faire un, je me rappelle pas si c'est un cat, mais tu peux dumper l'exécutable à travers ça. Alors, c'est super utile. Ça m'a sauvé le bacon une couple de fois.
Ouais, ben j'aime beaucoup Linux pour ça, et donc incidemment macOS aussi, parce que ce système de fichiers virtuels-là est très intéressant parce qu'il nous amène ailleurs. Il nous donne un meilleur accès direct sans devoir passer par des API nécessairement ou des choses comme ça. C'est, dans le fond, c'est la vieille version des API, c'était le /proc ou le /dev à la limite dans certaines instances où on est capable de voir des choses. On est capable de voir des éléments système qui se cachent là-dedans. C'est complètement fou ce qu'on peut faire, ce qu'on peut en faire. Puis on n'a pas accès facilement sous Windows, en tout cas du moins en command line comme on le fait en Linux, pour interroger ce même degré d'information dans ce cas-ci, un système de fichiers virtuels.
Absolument. C'est pas aussi facile sur Windows, mais c'est plus performant en général sur Windows. Je vais leur donner le point au moins pour ça, pour en écrire beaucoup de choses dans ce domaine-là. C'est quand même pas trop pire. Pour revenir aux aux autoruns et tout ça, il y a un autre aspect, je pense, qu'on peut parler, qui est au point de vue du... ça va être dans le bootstrap, mais je pense aussi c'est au runtime, ça peut être utile, mais qui est le concept de hiding in plain sight, qui est ça veut dire se cacher à pleine vue. Je dirais qu'il y a une tendance à quelqu'un, tu sais, qui aux attaqueurs qui expérimentent à se cacher sous Windows ou dans un système d'opération, d'essayer de faire des choses qui sont complexes. Ou en tant que défendeur, c'est à ça qu'on pense aussi. Ah, tu sais, tel malware, il fait un hook de telle affaire puis il s'injecte dans telle autre affaire. C'est super compliqué. Mais il y a l'autre côté de la médaille complètement qui est, des fois, c'est beaucoup plus simple d'être très transparent sur où est-ce que tu es sur le disque, sur le fait que oui, tu es un bootstrap, tu pars, mais c'est qu'est-ce que tu fais qui est plus la chose qui est plus cachée. Donc, genre d'exemple, c'est combien de boîtes Windows ont Acrobat Reader, pour voir des PDF. Ben, en tout cas, peut-être que je me date, là, mais en tout cas, dans mon temps, c'est genre 99% des boîtes avaient ça parce que tu ne veux pas ouvrir de PDF sans ça. Mais donc, l'idée, c'est de dire, bon, mais si ça, c'est sur toutes les boîtes dans l'organisation où est-ce que je m'attaque ou qui est attaqué, je peux regarder c'est quoi le footprint de ce logiciel-là. Qu'est-ce que Acrobat Reader installe sur le disque? Et puis, les logiciels modernes, à part quelques langages de programmation bien spécifiques, ils vont avoir du sprawl. Ça veut dire ça sera pas un EXE. Ça va être un EXE puis 54 différents DLL dans 30 directories différentes avec des noms impossibles à comprendre. Alors, si t'es un défendeur, puis tu arrives sur un système et dans ce système-là, bon, ben Acrobat Reader est dans un de tes autoruns, qui est dans un run key, donc quelque chose de très, très, très standard, que le fichier a l'icône d'Acrobat qui est nommé à propos de Acrobat que tu regardes les strings de ce fichier-là, puis ça parle de plein d'affaires d'Acrobat Reader. Bon, mais tu sais, c'est toutes des choses qui font réduire tranquillement, je dirais, les un analyste level 1, tu sais, de suspicion. Tu veux les amener à être confortables à ce qu'ils regardent assez pour qu'ils, tu sais, pour qu'ils switchent à faire quelque chose d'autre. Alors, ce hiding in plain sight là est très, très, très puissant parce que ça devient pas une question de, tu sais, de grosses techniques compliquées. Ça devient une question très de, c'est comme du social engineering dans le fond. Tu sais, c'est humain, c'est vraiment humain. C'est ça le core.
Oui, absolument. Puis c'est ça aussi qu'on se fait avoir, on pense, puis tu le mentionnais très bien, tu sais, des grandes techniques compliquées. La réalité, c'est que, à l'exception des États, puis même encore là, ils n'ont pas des moyens infinis. Ils doivent faire de l'argent rapidement avec ce qu'ils font, puis avec le moins d'efforts possible. Fait que c'est sûr que s'ils font juste repackager un Acrobat, comme tu donnes dans tes exemples, puis on en voit plein dans Android actuellement, on en voit plein dans d'autres sphères où qui disent OK, download mon logiciel, j'ai une copie de Acrobat, tu dois mettre ton Acrobat à jour, puis d'une façon de tromper l'utilisateur à installer une version malicieuse du logiciel légitime, puis de le faire aller parce que l'utilisateur, lui, ça. Fait qu'on revient à quelque chose de très, très simple qui est probablement pas très long à packager, que probablement dans un week-end, n'importe qui s'y connaît un peu serait capable de le faire. Et c'est pas très dispendieux. Puis ils sont capables de ramasser une couple de 100 000 avec ça, par exemple, puisque actuellement, c'est ça le principalement. L'intérêt, c'est de ramasser de l'argent. Ben, tu sais, ils vont tomber dans l'argent. Ils ont fait 100 000 dans un week-end. Puis pouf, il a été détecté. Puis après ça, il disparaît. Puis ils sont contents. Ils vont cacher leur argent. Ben, tu sais, c'est faut le voir un peu comme ça.
Absolument, absolument. Puis de un à un, donc dans le sens que, tu sais, si c'est moi et un seul ordinateur, détecter ça, c'est très difficile. Parce que quand tu as un sample de un, tu sais, j'ai juste un ordinateur en avant de moi. Un des 54 fichiers de Acrobat, lui, est-tu malicieux? Ben, tu sais, à moins que j'ai vraiment un mois à passer dans ça, ça va être difficile. Alors, d'un point de vue de défendeur, la clé ici, c'est vraiment les statistiques. Donc, c'est si tu zoom out puis tu dis, bon, je suis dans un scénario d'entreprise qui est là où il y a beaucoup de sécurité qui est faite. Bon, ben là, la question devient non pas spécifiquement de regarder fichier à fichier, mais de dire, bon, ben je vais prendre tous les fichiers dans le directory de cette boîte-là, puis je vais aller en chercher 10 autres à d'autres endroits dans la compagnie, puis je vais juste comparer pour voir est-ce qu'il y a quelque chose, un outlier, quelque chose qui ressort de ça. Ça, c'est le processus très manuel. On espère que vous avez des outils bons qui vont vous aider à faire ça, mais quand même, fondamentalement, c'est vraiment à ça que ça revient beaucoup, c'est de comparer les choses qui sortent de l'ordinaire. C'est extrêmement puissant en général, juste comme concept pour faire du threat hunting.
Ouais, ben l'analyse statistique est une chose. Là, ça, tu glisses, c'est un peu comme du AI aussi, essentiellement, qui sont des outils qui nous permettent de ressortir les outliers, les éléments qui sont anormaux sur la globalité du fonctionnement. C'est une chose dans l'entreprise. Les PME n'ont pas cette capacité-là, puis les personnes encore moins. C'est là où ça devient un peu, je trouve, puis de façon, puis les cibles ultimes, c'est les personnes les moins bien nanties au niveau cyber. Que les grandes entreprises, parce qu'ils ne se cacheront pas de la même façon dans les grandes entreprises qu'ils vont se cacher dans les PME, notamment. Là.
Oui, en effet. Le silver lining, donc la bonne chose par rapport à ça, c'est que les chances qu'une PME se fasse attaquer par quelqu'un de très bespoke, de très une attaque custom, que personne d'autre a fait dans le monde, est beaucoup moins élevée qu'une grosse compagnie. Alors, au moins, bon, il y a ça comme confort un peu. Et en tout cas, bon, moi ma recommandation serait vraiment comme faites affaire avec un MSSP, avec une compagnie qui font de la sécurité, puis c'est leur job, qui connaissent ça, puis qui sont capables de faire ça pour vous à des prix plus réduits. C'est vraiment...
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, je te laisse casser sur in plain sight.
Right. Donc, en fait, c'est ça, tu sais, in plain sight, bon, c'est, C'est assez générique comme catégorie. Vraiment, je pense que on pourrait embarquer dans des exemples et des exemples. Honnêtement, je veux faire un petit peu attention parce que moi, mon expérience vient du côté de l'intelligence et donc j'ai beaucoup d'exemples que j'hésite à parler juste au cas où c'est encore relevant. Je voudrais pas mettre quelqu'un en trop. Mais c'est assez pour dire que hiding in plain sight, c'est extrêmement puissant et ça, cette technique-là continue dans tu sais, les deux autres catégories que je parlais au début, qui étaient comme le runtime puis le réseau. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est tu peux prendre cette même philosophie-là et bon, regarder le runtime de façon disons historique ou tu sais justement du point de vue où on veut prendre des grosses techniques tu sais sophistiquées blablabla. Bon, on pourrait faire du cloaking de notre agent pendant que ça roule sur le système. Disons que c'est un exécutable qui est là, qui est l'attaqueur, tu sais, il vit dans un exécutable. Il y a des techniques pour aller en mémoire de différents processus, d'enlever l'entrée de cet exécutable là-dedans. Tu peux mettre des hooks. Donc, il y a beaucoup de techniques sur ça, mais je ferais comme un challenge qui est de dire, bon, mais tout ce temps-là à faire ces techniques-là, qui sont des techniques qui sont possibles à détecter. Donc, la chose qui est un double edge, donc une arme à deux tranchants pour l'attaqueur, c'est que ces techniques-là, oui, peut-être t'enlèvent, disons, de la liste des processus, mais ça donne aussi une cible pour les défendeurs d'aller voir. Donc, de dire, bon, mais on sait qu'il y a une technique que si tu l'enlèves de telle liste, tu sais, ça ira pas dans le task manager, tu verras pas l'exécutable. Bon, ben, ça devient facile pour les défendeurs, là, tu sais, les AV puis tout ça, de dire, bon, ben, je vais aller comparer cette liste-là de tel processus-là puis de tel autre endroit différent puis du kernel, puis je vais voir s'il y a une différence. Puis si oui, bon, ben, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui fait de quoi de malicieux. Et là, ça devient, il y a aucun doute. Parce que quand tu vois que quelqu'un s'enlève d'une liste comme ça, bon, ben, tu sais à 100% que c'est malicieux, puis tu sais qu'il faut que tu sautes là-dedans. Alors.
Absolument. Ouais, puis ces techniques-là ont été largement utilisées. Puis c'est pour ça, là, on arrive à la fin du cycle, parce qu'ils ont tous été brûlés. Fait que là, exact. Maintenant, tous les outils, les outils, c'est en tant Linux qu'en Windows, toutes ces techniques-là ont été largement utilisées. Je pense que là, justement, des faciles exécutables. Mais en même temps, mais maintenant, tous les systèmes de vérification s'assurent qu'il y a cohérence entre les deux. Puis dès qu'ils détectent incohérence, ben, systématiquement, ils vont lever. C'est le même genre de choses. Ils vont lever toutes les places où il peut y avoir des choses où on se cache en runtime, là, on s'entend, qui permet, puis c'est très facile. C'est là où les attaques ont été pendant les 30 dernières années. Donc, on est très, très bon maintenant pour détecter ça. Même les changements de hook sont détectés. Tous ces éléments-là sont très, très, sont là, matures, simples et facilement détectables.
Exactement. Exactement. Alors, je dirais, moi, tu sais, je regarde ces techniques-là du point de vue de, regarde, si tu pars en cybersécurité, puis tu développes, t'es capable de coder un peu, c'est super intéressant à faire des preuves de concept sur ça. Parce que, tu sais, ça t'enseigne beaucoup comme à regarder à l'intérieur de Windows, puis comprendre tout ça. En pratique, est-ce que c'est très viable encore? Comme tu dis, c'est très bien connu. Surtout, pardon, si tu compares à la technique, disons, de hiding in plain sight, où je vais dire, bon, ben, je sais pas, moi, tu sais, l'entreprise où est-ce que l'attaqueur vient, il roule Microsoft Teams, puis Microsoft Teams ont deux processus qui roulent dans le background pour je ne sais quoi, c'est Microsoft qui décide. Bon, ben, je vais en ajouter un troisième qui ça va être à peu près le même nom. Ça va être déguisé comme ça. Puis ça va être juste assez proche pour dire que comme ouais, ça ressemble beaucoup à ça. Alors, quelqu'un qui passe à travers la liste posera pas plus de questions que ça.
Oui, ça, c'est un bel exemple parce que Teams notamment, mais plusieurs autres vont utiliser souvent des genre le render, le XPC ou peu importe comment ils vont les nommer, qui sont des processus, les helpers essentiellement. C'est rendu parce que les OS exigent ce genre de choses-là maintenant. Fait que comme ils exigent, ben là, ils apparaissent, mais ils ont les mêmes noms similaires. Fait qu'on va juste glisser dans cette stratégie-là, comme elle a une pleine, quand se cacher à la pleine vue, ben c'est encore là. On va utiliser une stratégie qui est des choses qui est utilisée. Je trouve ça drôle que tu nommes Teams parce que jusqu'à temps qu'il bascule en, qu'il se débarrasse d'électrons, c'était assez mou comme place à aller attaquer, là, notamment, là. Mais maintenant qu'ils sont pas électrons, c'est, on va voir comment le temps va faire, mais il y a moins de probabilité que ça soit mou comme c'était. Il n'y a pas si longtemps. Là.
C'est bon. Honnêtement, c'est un exemple complètement au hasard. Moi, je n'ai jamais Teams. Fait que mon premier exemple qui m'est venu en tête, c'est Skype. Là, je me suis dit, ça me date un peu de dire Skype.
Ça existe encore, mais c'est, je ne sais même plus. Je pense qu'ils ont peut-être décommissionné. On transforme même Teams perso maintenant. Anyway, mais tu sais, toutes les applications électrons dont notre Teams en fait partie, comme Slack en fait partie, Discord en fait partie. Il y en a plusieurs qui ont cet élément-là. Et ont tout ce framework-là qui est problématique au sens où on est capable facilement de se cacher à l'intérieur du framework et d'arriver à matérialiser les exemples que tu mentionnes. Et comme ils sont largement utilisés, peu importe dans quel setup Discord, Slack ou Teams notamment, sont quasiment on a une bonne chance d'en trouver un quelque part dans une entreprise, un des trois. Donc, dès lors, on l'a bien dans l'exemple que tu mentionnes, une surface d'attaque intéressante, puis on est capable de se cacher à travers tout le framework Electron, qui est essentiellement du web JavaScript caché en arrière. Fait que tu fais remplacer un JavaScript par ce que tu as, puis là, on revient, on tourne au Toron, ben c'est juste comme plugger ton affaire là-dedans. C'est sûr que tu n'es pas admin de la système, tu es l'utilisateur, mais déjà là, tu commences à être persistant et c'est souvent la première étape que tu essaies d'aller vers, ensuite te propulser ailleurs dans le système, puis justement ton bootstrap qui démarre à chaque fois que Teams, Discord ou Slack démarrent, ben là, c'est si elle... Tout le monde démarre ça chaque matin quand ils vont travailler. Ben, à chaque matin, tu es sûr que tu vas tout le monde qui va le démarrer. Donc, dès lors, un peu sur ton runtime et sur ta persistance en même temps dans ces contextes-ci.
Exactement. Et je pense que si on avait eu cette discussion-ci il y a 10 ans, une chose qu'on dirait, c'est de cacher l'exécutable au point de vue d'avoir un gros exécutable sur le disque. Maintenant, tu sais, quand justement Minesweeper doit être genre 50 megs, si c'est pas 100 megs, c'est une problématique qui, en tout cas, de mon point de vue, a complètement disparu. L'attaqueur pourrait mettre 50 megs d'exécutable sur le disque, puis personne qui verrait passer du tout.
Ouais, c'est là, puis c'est parce qu'on en a parlé un peu en pré-show aussi, parce que ça va être amusant, parce que oui, effectivement, sur le si on regarde la taille de fichier pour le défenseur l'analyser, moi, ça me dit rien, la taille des fichiers. Je suis un peu même fasciné à quel point les fichiers sont énormes maintenant, les exécutables. Je ne sais pas ce qu'ils cachent là-dedans, mais ça n'a juste aucun sens. On va regarder, nommer ceux que je suis habitué comme Office, par exemple. Les exécutables d'Office sont immenses. Bon, cela étant, la chose qui ne sait pas, puis c'est le sens qu'a détecté l'automne dernier, le fait que les malveillants cachaient, puis on parlait de taille, c'est qu'ils padaient la grosseur des fichiers jusqu'à la taille maximale des outils d'analyse, des sandbox essentiellement. Puis ce qui fait que les sandbox n'analysaient plus ces codes-là. Donc, la façon, au lieu de se cacher en faisant des techniques de lolbin ou un peu ce qu'on a mentionné jusqu'à présent, bien, eux, la seule façon, c'est de faire que l'outil d'analyse les ignore.
Ah, exactement. C'est vraiment fascinant le cat and mouse game de tout ça. Là.
Mais j'adore ça. Je fais un peu moins de soc maintenant que j'en faisais il y a quelques années, mais même quand j'en faisais, je trouve ça très drôle, ce jeu-là, de voir, ils ont changé. Puis on les voit en plus quand on est dans le soc, tu vois tranquillement les changements qui se font. Il fait une nouvelle variante d'un machin, puis là tu le vois aller dans les logs. Ah, il essaie de se cacher d'une façon un peu différente cette fois-ci. Et il va y aller comme ça. Fait quand on est en opération, puis on est assez éveillé, on va voir cette migration-là. Donc, ça devient plus difficile de se cacher in plain sight pour la plupart des codes existants. Un nouveau, ça, c'est une autre histoire. Parce qu'il évolue de façon itérative. Fait qu'on les voit évoluer. Puis ils mettent pas beaucoup d'efforts à évoluer. Il y a peut-être genre 15 types de bootloaders qui existent. Il existe peut-être genre 16 types de payloads malveillants. Ils s'achètent tout entre eux autres. Ils se louent toutes les affaires. Fait qu'ils sont très faciles. Comme ça, on voit les petites variantes comme ça. Quand on est dedans, c'est celle-là, ça donne un avantage aux défenseurs dans ce cas-ci parce que les attaquants sont paresseux. Cela étant, quand on attend des attaquants non paresseux, là, on est complètement ailleurs où il y a complètement une nouvelle sorte qui sort. Là, on est foutu, on ne voit plus rien.
Exactement, exactement. Puis je pense que ce que tu viens de dire est vraiment une distinction très importante qui est la défense et la détection d'attaqueurs comme ça sur un endpoint est complètement différente de si on est en entreprise, dans une équipe de deux personnes ou dans un SOC ou dans une grosse compagnie de sécurité. Alors, c'est facile des fois de tomber, d'avoir un bias sur nous, sur ce qu'on est habitué. Mais ouais, c'est important de reconnaître que c'est très différent comme game.
Ouais, non, c'est pas facile, ce genre de choses-là. Il restait des choses à parler sur le runtime?
Ouais, bonne question. Ça fait que je pense que, tu sais, bon, il y a quelques concepts qui sont intéressants. Peut-être pas tant comme de grosses discussions en profondeur, mais il y a ce qu'on appelle des packers. Donc, c'est comment cacher c'est quoi que le code fait, ce que le code vraiment fait au runtime. Et bon, il y a plusieurs façons différentes de faire ça. Historiquement, beaucoup de l'analyse était faite par fichier et moins en mémoire. Alors, tu sais, c'est super commun pour un défendeur d'avoir accès à un fichier, un exécutable qui était sur le disque, mais beaucoup moins d'avoir accès à l'exécutable en mémoire, qu'est-ce qui est là. Alors, donc, le concept de packer qui était de dire, dans le fond, que le code est encrypté ou obfusqué pendant qu'il est sur le disque, et que quand l'exécutable part ou quand le code part, il va s'unpacker. Donc, il va se décrypter en mémoire pour faire ses affaires. Honnêtement, dans ma tête, pour moi, ça revient beaucoup à la même chose que qu'on parlait avec, disons, tu sais, faire le cloaking du processus au runtime. Parce que maintenant encore, beaucoup d'outils vont regarder la c'est quoi le terme que je cherche? La variabilité statistique, c'est l'entropie d'un fichier. Donc, beaucoup des outils maintenant vont lire un fichier avant qu'il exécute. Ils vont regarder l'entropie, ce qui veut dire, si disons tu prends un entropie de 1, donc de 0 à 1, où 1, c'est complètement au hasard. Ça veut dire que c'est des bits, c'est complètement au hasard. Il n'y a pas de structure. Ça, c'est habituellement des choses qui sont encryptées ou compressées qui vont avoir l'air de ça. Alors, il y a beaucoup d'outils qui vont automatiquement dire, « Hey, tel fichier, c'est haute entropie, je ne sais pas ce qui se passe là-dedans. » Alors, ils vont le flaguer. Alors, tu sais, oui, il y a de la technique, c'est bien, ça cache, mais en même temps, ça te met une grosse cible sur le dos de l'attaqueur. Alors, c'est moins intéressant. Je pense que c'est encore une fois, c'est intéressant. C'est bien de le savoir académiquement. C'est bien de rechercher, de jouer avec ça. Mais je sais pas, honnêtement, je sais pas à quel point c'est encore très courant.
Ouais, puis c'est détectable facilement quand tu le mets à ça. Mais de toute façon, tout ce qui est en runtime à l'heure actuelle, parce que ça a été largement utilisé par le passé, les techniques sont maintenant répertoriées. C'est bien les maîtriser parce qu'il faut comprendre les concepts parce que on les voit, il y a encore des mauvaises pratiques qui se font, quand certaines personnes le font, mais ça nous permet de détecter rapidement. On va basculer très rapidement sur le dernier sujet parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Le volet plus réseau de se cacher.
Oui, absolument. Donc, la partie qui est très similaire au runtime à propos du réseau, c'est les listes, right? On parlait de netstat, donc une question de se cacher du réseau. Cependant, encore une, c'est vraiment le thème, je pense, dans le fond, de hiding in plain sight versus les types de techniques. Parce qu'il y a de plus en plus d'outils ou de logiciels qui vont avoir de communication réseau maintenant. Donc, le grand avantage, là, c'est soit de se cacher, disons, plain sight comme un outil qui fait affaire au réseau, ou peut-être plus intéressant, les ordinateurs modernes, disons, vont avoir des fois des unhosted firewalls. Tu sais, qui vont dire, bon, ben, tel logiciel a pas besoin de parler sur le réseau, alors je le laisse pas parler sur le réseau. Alors, il y a une espèce de une façon de se cacher qui est de dire, bon, ben, quand je dois communiquer sur le réseau, je vais m'injecter dans un processus qui, de façon naturelle, communique sur le réseau. Donc, si je prends un exemple au hasard, bon, ben, au runtime, je vais regarder, est-ce que Microsoft Edge ou bien Chrome roule? Oui, bon, ben, je vais m'injecter dans ça. Et à partir de là, je sais que l'origine sur l'endpoint est valide parce que c'est une origine d'un browser. Et tout ce que j'ai à faire après ça, c'est, bon, ben, pour être un peu plus fancy, c'est de dire, bon, mais c'est certain que si Chrome se met à se connecter sur le port, je sais pas, sur le port 22, qui est SSH, ça va être super weird. C'est vraiment hors de l'ordinaire. Mais sur le port 443, qui est SSL, HTTPS, c'est super normal. Alors, le malware, dans le fond, vont utiliser des destinations réseau qui vont bien fitter, qui vont être hiding in plain sight, qui vont bien fitter avec ce qui se passe. Puis, c'est une... Il y a beaucoup de finesse que j'ai vu historiquement dans tout ça. Bon, surtout par rapport à des attaqueurs qui sont très très matures pour dire bon, mais ben, c'est quand je parle sur le réseau. Parce que si tu es un défendeur, peut-être que tu vas dire bon, ben telle boîte, la boîte du CEO vient de faire de la connexion SSL, vient d'envoyer 500 mégs à 3 heures du matin. À un site par rapport. Bon, c'est bizarre. Alors là, il y a beaucoup d'attaqueurs qui vont devenir beaucoup plus crafty, qui vont dire, bon, ben moi, je vais attendre de voir d'autres connexions du browser qui vont partir. Puis quand il y a au moins 3 connexions qui sont parties en une minute, bon, ben là, moi, je vais me connecter puis je vais envoyer mes données. Alors, tu t'assures, tu sais, ils s'assurent que c'est pendant qu'il y a de l'activité sur le réseau puis des choses comme ça. Alors, il y a beaucoup de finesse intéressante de ce point-là aussi.
Ouais, regarde, dans le fond, ça prend un peu de réflexion aussi. C'est ça aussi qui rend le travail difficile pour les analyses du SOC parce que de plus en plus, puis là, tu parles de sophistication, puis un peu moins, là, il y a juste un cas récent que j'ai vu qui m'avait fait beaucoup rire où il y a eu énormément d'énergie sur l'initial access qui a été faite et la personne a brûlé son accès en l'espace de 5 minutes en faisant un geste qui était complètement imbécile où tous les alarmes ont levé tout de suite puis fait ce genre de choses. Un peu comme tu dis, envoyer ça à 3 heures du matin. Mais là, c'est sûr, les alarmes ont tout levé. Ça fait que, tu sais, maintenant, ils font pas ça parce que s'ils investissent beaucoup en accès initial, ben, ils vont faire attention. Ensuite, lui, clairement, il a pissé son accès initial, puis j'ai pas catché. Puis ça fait un moment que tu cherches les intentions de l'attaquant, puis tu fais comme, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est bien stupide. Mais ça, bref, c'est ce genre de choses. Mais oui, effectivement, maintenant, ils sont de plus en plus sophistiqués, ils font ce genre de choses-là. On va conclure là-dessus. Sujet très intéressant. Je crois qu'on va devoir y revenir parce qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on a laissé beaucoup de ficelles en suspens. Oui. Merci énormément. C'est toujours très, très intéressant ces sujets-là parce qu'on aborde des choses puis ça nous permet de partager un peu nos expériences de vieux routier.
Super, super. Merci. C'était bien plaisant.